En montagne aussi, le dérèglement climatique provoque des phénomènes néfastes. Éboulements à répétition à cause de la fonte du permafrost, recul des glaciers.
France Inter, Interception.
Nous prenons maintenant la direction de Saint-Gervais, au pied du Mont Blanc. Le glacier de Tête Rousse rétrécit au fil des décennies. Or, sous ce glacier se trouve une poche d'eau de 40 000 mètres cubes. Si la pression sur cette poche s'accentue, le glacier pourrait imploser et déferler sur la vallée. Une telle catastrophe s'est déjà produite en 1892 à Saint-Gervais. Il y avait eu à l'époque 175 morts.
Saint-Gervais, c'est une ville de montagne, 5779 habitants. Nous sommes ici entourés par les sommets et les glaciers. C'est d'ailleurs le point de départ de nombreux alpinistes qui veulent gravir le Mont Blanc. Nous commençons notre découverte ici, tout en bas de la commune, dans le quartier du Fayet, au bord du Bonan, un ruisseau affluent de l'Arve.
Bonjour, Gabriel Grandjacques, donc un peu historien de profession, dada d'histoire locale, donc j'ai animé un club d'histoire locale et une revue pendant 40 ans, la revue d'histoire locale Couter, ici. Actuellement, je suis adjoint à la culture et au patrimoine depuis 2008.
On est ici, Gabriel Grandjacques, sur le site des thermes de Saint-Gervais-les-Bains. Qu'est-ce qui s'est passé ici en 1892? Vous pouvez nous raconter?
La nuit du 11 au 12 juillet 1992, il faisait très chaud. L'établissement thermal, qui a d'ailleurs été à son apogée, avait fait une belle soirée avec un pianiste. Les gens tardaient à aller se coucher. Ils ont attendu. Minuit sonnant, quand même, ils vont se coucher. Et puis, vers 1h15, est arrivée donc la catastrophe. Ça a commencé par un grondement. Catastrophe qui avait commencé 11 km plus haut, au glacier de Tête Rousse. Finalement, donc, c'est une poche d'eau, une poche d'eau intraglaciaire. Il y avait entre 100 et 200 000 mètres cubes d'eau. La calotte glaciaire, d'abord, de dessus, s'est effondrée, créant une dépression qui a fait sauter la calotte latérale. Et ces 200 000 mètres cubes d'eau sont partis, créant dans la vallée de Bionassay une lave torrentielle qui a arraché les rochers, qui a arraché les arbres, qui a arraché la croûte végétale. Et tout ça, c'est arrivé à la fin à Bionnay, à 40 mètres de hauteur. On détruit le village de Bionnay. Saint-Gervais a été sauvé parce que cette lave torrentielle, ensuite, a été s'enfiler dans la gorge du Bonan. Mais arrivé ici, à la fin de la gorge, eh bien, c'était encore 30 mètres de haut de cette lave torrentielle qui a détruit le bel établissement thermal qui s'était construit entre les années 1860 et 1890.
Aujourd'hui, et ça on le sait depuis 2009-2010, il y a à nouveau une poche d'eau qui se forme sous ce glacier Tête Rousse. On peut imaginer que le même scénario se reproduise?
On ne peut pas dire non, mais je dis non quand même. Je dis non quand même parce que, justement, en 2010, des travaux importants ont été faits. Mais malgré cette première purge, en effet, l'eau se reconstitue en permanence. Mais quand même de degrés moins. Il y a actuellement deux poches, et tant qu'elles ne se soudent pas, il n'y a pas de problème. Si elles se soudent, il y a des problèmes. Mais il faut être vigilant, et je pense que la municipalité et l'État sont très vigilants, et il y a de grands travaux de prévus en conséquence.
Nous montons maintenant au hameau de Bionnay, le premier touché lors de la catastrophe de 1892, en voiture avec le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Pélex.
Voilà, là on arrive à l'endroit où la lave est passée. Voilà où sont arrivés où est arrivé le million de mètres cubes d'eau, de glace, de rochers, d'arbres. Et donc là, quand on imagine ça, on voit des rochers, on voit un torrent qui est relativement tranquille. Aujourd'hui, il n'est pas très tranquille parce qu'il a beaucoup plu. Et bien, imaginons ça avec une trentaine de mètres de hauteur de lave.
Ça veut dire que là, on est comme dans une espèce de gorge, il y a quelques petits méandres, on serait au-dessus des plus hauts arbres, en fait.
Quasiment, voilà.
Et pour ce qu'on se rende bien compte, ce glacier Tête Rousse, il est quand même très loin d'ici.
Alors, ce n'est qu'une impression, parce qu'en fait, à vol d'oiseau, il est très près. Et c'est parce qu'il est très près que la pente est importante. S'il était très éloigné, on aurait une pente douce, et à ce moment-là, bah, ça s'écoule gentiment, et il y a un peu de terre un peu partout, il n'y a pas de souci. Là, le fait qu'il soit proche, et donc la distance ne permette pas un écoulement à plat, puisqu'on va de 3002 à 950 mètres à peu près, eh bien, plus la distance est proche, plus la pente va être importante, et plus la vitesse de l'eau va être importante, et de tout ce que l'eau transporte avec elle.
Face au risque de catastrophe, un système d'alerte a été installé. Le glacier est surveillé avec des mesures de résonance magnétique, des relevés météo et plusieurs opérations de pompage ont eu lieu depuis 2010. On retrouve Jean-Marc Pélex dans sa mairie de Saint-Gervais.
Simplement pour montrer un peu la folie humaine et cet orgueil démesuré que nous avons tous, catastrophe 1892, 200 morts, la partie basse de la commune de Saint-Gervais au Fayet, dont le village n'existait pas à ce moment-là, il n'y avait que les thermes. 8 ans plus tard, à peu près dans les années 1900, le train est arrivé, et comme au Far West, les maisons se sont construites. Alors que le limon sur lequel ces maisons sont construites contenait encore les cadavres des personnes de la catastrophe. Donc, on ne pensait pas que ça puisse revenir, ou alors c'était divin, c'était une punition ou c'était autre chose. Mais cette folie marchande a fait qu'on a construit un bourg à un endroit où aujourd'hui il y a énormément d'habitants et c'est plus 200 morts qu'on aurait aujourd'hui, c'est 2 à 3 000 morts qu'on pourrait avoir.
Vous dites 2 à 3 000 morts, Jean-Marc Pélex, c'est un chiffre qui est énorme. Est-ce qu'il y a une conscience générale de ce risque ?
Alors, la conscience, elle a existé en 2009 quand on a réaverti la population de ce risque. Il y a eu des gens qui sont partis pendant quelques temps habiter ailleurs, oui. Parce que quand on vous dit, gardez à côté de vous un petit sac avec une bouteille d'eau, une lampe torche, mettez votre téléphone à côté, et puis si vous entendez la sirène, vous réfléchissez pas, vous partez, vous allez sur un point de rassemblement, c'est traumatisant. Et puis petit à petit, comme les gens ont été sécurisés et ont eu confiance dans cette surveillance, eh bien, la quiétude est revenue. Parce que la problématique du cerveau et de l'humain, c'est que si le phénomène qu'on annonce n'arrive pas, au bout d'un moment, on n'y croit plus. Alors, on est là pour surveiller le glacier et prévenir. On ne pourra pas empêcher un deuxième phénomène, parce qu'un glacier, c'est un être vivant. La glace, elle bouge tout le temps. Donc, on étudie, on surveille, on écoute, et on a un réseau qui nous permet de prévenir et de déclencher des alertes sur des téléphones pour éventuellement évacuer les populations qui sont concernées.
Oui, vous avez tout un système de câbles pour contrôler les mouvements du glacier, des sirènes d'alarme, un plan d'évacuation d'urgence. Si demain, il y a une alerte, comment ça se passe ?
Alors, si demain, il y a une alerte, si des câbles se coupent, s'il y a 2 câbles qui se coupent là-haut, il y a des câbles qui ont été mis dans la gorge en dessous du glacier, ça déclenche une alerte téléphonique et on a 15 minutes pour réagir. Et il y a quelques années, il y a eu un orage extraordinaire, les câbles se sont rompus, mais sont rompus parce que la foudre est tombée dessus. Et le préfet a déclenché le plan hors sec.
Et à ce moment-là, ça a fonctionné ? En 15 minutes, tout le monde avait évacué ?
Alors non, parce qu'on s'habitue trop au plan et on n'y croit pas, et on ne fait pas de répétitions. Et quand on fait des répétitions, eh bien, les gens n'y croyant pas, ou se disant « non, ça ne peut pas arriver, c'est, voilà, c'est là-haut, ça me concerne pas », eh bien, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Et même les services publics ne savent plus ce qu'il faut faire.
C'est quand même pas très rassurant dans l'éventualité d'une catastrophe avec ce glacier de tête rousse.
Alors, c'est pas très rassurant, mais c'est le même phénomène pour tous les risques et pour l'habitude que l'on a quand on habite à côté d'une usine à risque dans une ville ou dans un endroit où il y a un risque naturel. C'est la même chose. Il y a un moment où on s'habitue, et c'est normal, on s'habitue à penser à autre chose parce que, voilà, c'est pas arrivé, on a d'autres choses. Notre cerveau, aujourd'hui, il est très envahi. Nous, on est quand même un peu plus sérieux. Et effectivement, on domptera pas ce glacier, mais on continue à le surveiller. Mais ça a un coût. Mais c'est une volonté. Et une volonté partagée entre l'État et la commune. On surveille, ça coûte entre 200 et 300 000 euros par an. C'est, jusqu'à maintenant, c'est près de 7 millions d'euros depuis 2009 qui ont été dépensés. L'État nous finance à 80%. Mais par contre, la commune de Saint-Gervais, qui est une petite commune de 5 700 habitants, elle paye 20%. Et 20% de 7 millions d'euros, c'est 1,4 million depuis 2009. Donc c'est vraiment aussi une volonté communale de faire en sorte qu'on protège. Mais l'argent public, il est fait pour ça.
On vous retrouve, Marine Denis, pour évoquer maintenant les solutions qui sont proposées, les outils aussi juridiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une protection qui existe pour ceux qui seraient obligés de quitter leur logement face à ce dérèglement climatique ?
Alors, historiquement, l'État a la responsabilité de protéger sa population. Dans le préambule de la Constitution de 1946, l'alinéa 12 précise qu'il y a un principe de solidarité nationale. Donc ça, il est mis en vigueur lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Donc c'est l'État qui déclenche des opérations de secours à sa charge. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est qu'on a une absence d'intégration des nouvelles formes de catastrophes naturelles, ou en tout cas, on a du mal à intégrer dans le droit le fait que ces catastrophes naturelles vont devenir beaucoup plus fréquentes. Et ce qui pose problème dans le droit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de disposition vraiment précise pour savoir quelles sont les personnes qui peuvent être indemnisées par les pouvoirs publics.
Quand vous dites catastrophe naturelle, on pense à quelque chose de très brutal, comme une inondation, comme ce qu'on a vu dans la vallée de la Roya. Mais si c'est un processus plus long, comme effectivement une lente augmentation des températures ou l'érosion côtière, comment ça se passe dans ce cas-là ?
Pour ce qui concerne les canicules, on n'a pas vraiment de définition juridique, de cadre juridique. Pour ce qui concerne le grignotement de la mer sur les terres ou sur le littoral, c'est la même chose. Donc on manque, là je pense qu'on peut parler de forme de vide juridique. Après, il ne faut pas chercher uniquement dans le registre du droit des catastrophes naturelles, entre guillemets, mais peut-être aussi regarder ce que peuvent faire les pouvoirs publics en matière d'adaptation.
Qu'est-ce que selon vous on devrait mettre en place en priorité pour pouvoir aider les personnes qui demain vont être obligés de déménager face à des catastrophes naturelles ou des changements climatiques à plus long terme ?
Alors déjà, je pense qu'il y a des premiers dispositifs qui doivent être renforcés en termes d'urbanisme. Aujourd'hui, il faut absolument arrêter de construire sur des zones qui sont soumises à des risques naturels ou à des risques industriels. Voilà, l'administration fait aussi un travail d'identification des territoires les plus vulnérables. Il y a aussi une responsabilité des maires et des promoteurs immobiliers, évidemment, d'arrêter de construire n'importe où, pour éviter justement de se retrouver avec des questions d'indemnisation 10 ou 15 ans plus tard. Donc là, il y a ce premier sujet. Après, je pense qu'il faut arriver à mettre en place peut-être des opérations de secours et de solidarité un peu plus efficaces, c'est-à-dire de donner plus de moyens, notamment aux mairies post-catastrophe naturelle, pour ce qu'elles s'organisent, pour qu'elles puissent reloger les gens plus facilement. Et après, ça va paraître très très large, très vaste ce que je dis, mais c'est à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on sait aussi que c'est l'augmentation des émissions qui perturbe les cycles climatiques et qui donc crée des risques de catastrophes naturelles plus importants, et puis des politiques d'adaptation plus ambitieuses, plus exigeantes, et pas uniquement de la construction de digues. L'eau monte, elle montera toujours, donc comment est-ce qu'on envisage peut-être une relocalisation des gens dans l'arrière-pays, peut-être l'abandon aussi d'une certaine forme de tourisme. Bon, j'habite à Grenoble, je vois cette thématique-là sur les montagnes, c'est lunaire de penser que dans 50 ans, on pourra bénéficier de la montagne de la même façon qu'aujourd'hui. Donc, à mon sens, le premier objectif, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre.